enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Apocalypse 20, les versets 11 et les suivants, jusqu'à 21 au verset 4. J'ai relu ce livre pendant les congés et j'avoue qu'il m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'il m'a remis en perspective à la fois l'histoire du monde et ma propre histoire. Et je voudrais ce soir vous entraîner un peu dans l'avenir. Il y a des gens qui dépensent des sommes colossales pour savoir ce qui viendra dans les années, dans les décennies à venir. Eh bien, la Bible parle d'un avenir, même au-delà de l'avenir temporel, et nous montre ce que seront les fins dernières. Vous voulez savoir un peu? Lisez avec moi. Apocalypse 20, verset 11. Puis, c'est l'apôtre Jean qui a une vision du ciel, et voilà ce qu'il dit. « Puis je vis un ciel, un grand trône blanc, pardon, et celui qui était assis dessus. » La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, les riches et les pauvres, les gros comme moi et les maigres, qui se tenaient devant Dieu. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Waouh, quelle bonne nouvelle, hein. Mais lisez avec moi le reste. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quelle bonne nouvelle, plus de pollution. Une nouvelle terre, Patrick. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus là. Pour tous ceux qui aiment la voile, c'est râpé. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus forcément ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Les premières choses ont disparu. Ce texte que je vous ai lu ce soir comporte deux volets. Un volet terrifiant qui nous montre que l'issue à la fois du diable, de la mort, du séjour des morts et de tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, c'est les temps de feu, la séparation éternelle d'avec Dieu. Un mot plus connu dans le vocabulaire courant, c'est l'enfer. Alors pour ceux qui aiment les soirées d'enfer, moi pas trop. Et puis, une autre réalité, celle de ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus et qui atteignent là une terre nouvelle, un ciel nouveau, où Dieu lui-même sera d'une proximité incroyable. Et pour tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui n'en ont pas traversé, il y a une promesse là qui est magnifique. Dieu lui-même essuiera toutes larmes de nos yeux. Il prendra le mouchoir de sa poche et essuiera tes larmes, Emma. Chacune de tes larmes, Jeanne. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Plus d'arthrose, plus d'ostéoporose, ni ménopause d'ailleurs. Jésus est le Sauveur. On le chante, on le croit. Mais de quoi nous sauve-t-il d'ailleurs? quel est le danger qui nous guette pour qu'il nous sauve. Mais le danger qui guette chacun d'entre nous, c'est de partir dans les temps de feu. C'est de rater son éternité. Et j'aimerais ce soir, avec vous, remettre devant vos yeux la réalité de l'au-delà. La semaine dernière, j'ai été aux funérailles de Daniel, un administrateur de la radio qui est décédé brutalement lundi matin. 67 ans, crise cardiaque. Personne s'y attendait. J'avais causé avec lui 3 jours auparavant. On faisait des projets, on imaginait l'avenir de la radio. Et brutalement lundi matin, il se lève, il s'assied à son bureau, commence à travailler, appelle son épouse, « Chérie, j'ai mal à la poitrine. » Et brutalement, il est parti. Hier, nous avons enterré Marc, 33 ans. Brutal comme réalité. 33 ans, j'en ai 10 de plus que lui. Et un jour, ce sera mon tour et ton tour, mon ami. Et tout ce que tu auras acquis et fait ici-bas, à quoi cela servira-t-il vraiment ? Dans la perspective de l'éternité, à quoi cela servira-t-il réellement ? Et si Jésus n'était que notre roue de secours, à quoi cela servira-t-il réellement ? Mon ami, des fois je vois des gens vivre, même des croyants des fois, on a le sentiment, en les voyant vivre, que leur seul but, c'est la terre. Et on oublie qu'il y a un ciel et une éternité derrière la vie présente. Et la vie présente peut s'arrêter très brutalement, comme pour Daniel, comme pour Marc. En bonne santé, il y a encore 1 an, et le cancer est venu au mois de février. 6 mois plus tard, il était emporté. Mon ami, pourquoi et pour qui vis-tu ? C'est l'auteur chrétien C.S. Lewis qui avait écrit la chose suivante. Les chrétiens qui ont le plus d'influence en ce monde furent ceux qui pensaient le plus au paradis. Allô ? Les chrétiens qui ont eu le plus d'influence dans ce monde sont ceux qui ont le plus pensé au paradis. Et il rajoute, les apôtres qui entreprirent à eux seuls de convertir l'ensemble de l'Empire romain, les grands bâtisseurs des cathédrales, les protestants anglais, ardents défenseurs de l'évangile, qui réussirent à abolir le commerce des esclaves, laissèrent une marque indélébile dans l'histoire humaine. Justement, parce qu'ils avaient su garder les yeux fixés sur le paradis. Et de rajouter, depuis que les chrétiens ont cessé de penser au royaume à venir, leur influence sur le monde a commencé à décliner. Et de conclure, vise le ciel et tu gagneras la terre. Vise la terre et tu perdras et le ciel et la terre. Mon ami, Jésus a parlé d'une réalité à venir, le ciel. Il l'a prêché maintes fois en disant, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans sa prière dominicale, il dira, notre Père qui es au... C'était pas juste une petite ritournelle poétique. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant de partir au ciel, voilà ce qu'il a dit à ses disciples. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et son Père est aux cieux. Et je vais là-bas préparer une place pour vous. Amen. Le ciel est une réalité. Jésus est venu du ciel pour nous parler du ciel. Et la dernière parole avant de mourir, ou une des dernières avant de mourir, était en faveur du brigand à côté de lui, qui lui demandait grâce. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, au ciel. Le ciel est une réalité. Paul aussi croyait au ciel. Il dira dans 2 Corinthiens 5, verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Un jour, je quitterai ma maison à Saint-Bernard. Peut-être qu'on la vendra ou une des filles la reprendra, peu importe. Peut-être qu'un jour, ça va même raser par quelqu'un d'autre. Parce qu'on y fera une route, une autoroute. Mais peu importe, il y a pour moi là-haut, au ciel, une maison qui m'attend, qui n'a pas été faite de main d'homme. Et le Capricorne ne pourra pas venir le ronger. Parce que Dieu l'aura faite avec des matériaux précieux, qui dureront éternellement. Amen. Paul y croyait, tellement qu'il avait lutté pour annoncer l'évangile, pour éviter que des gens aillent en enfer et aillent au ciel. Il a tout laissé. Sa gloire humaine, ses titres de noblesse. Il a tout laissé afin d'annoncer l'évangile, l'espérance, Christ en nous, l'espérance de la gloire éternelle. Mais voyez-vous, si d'un côté Jésus est venu annoncer le ciel comme une réalité, le diable vient aussi frapper à nos portes et il vient discréditer le ciel. Dans Apocalypse 13, verset 6, on nous parle d'une bête qui va venir. En termes très imagés, métaphoriques, cette bête, c'est le diable et ses hordes. Et voilà ce qu'il dit. Il dit de lui, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle ou le ciel et ceux qui habitent dans le ciel. Le diable a été mis à la porte du ciel et il est furieux contre le fait que de simples humains le remplaceront un jour. Et de ce fait, il va tout faire pour discréditer le ciel. Parler de Dieu, Dieu existe-t-il vraiment? Oui, Dieu existe vraiment. Oui. Et le ciel, oh le ciel, vraiment existe-t-il? Oui, le ciel existe. Oui, le ciel existe et j'ai envie d'y aller. Et j'ai envie d'y aller. Et j'ai envie que tu sois avec moi là-bas. Amen. Et le diable fera tout pour discréditer Dieu et sa personne, le ciel et les enfants de Dieu. Il va calomnier les enfants de Dieu s'il le peut et là où il le peut. Pourquoi? La raison ultime, c'est qu'il veut empêcher des hommes et des femmes comme vous et moi d'aller participer à la joie du ciel. Et il fera tout pour le discréditer. Des philosophes parleront, des scientifiques parleront, afin que personne ne croie au ciel. Mais nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que le ciel existe. Marc, quelques 15 jours avant qu'il ne décède, je crois, Jean, hein, a vu deux êtres lumineux venir le chercher. Il savait qu'il y avait devant lui le ciel ouvert. Lorsque Jean Schirmer est décédé sur l'estrade ici, une sœur avait vu un ange, dans une vision, avait vu un ange traverser, ou deux anges traverser le plafond et venir chercher quelqu'un. C'était Jean. Et la paix que Dieu nous donne, le Saint-Esprit qu'il déverse en nous, et la compte qu'il nous fait du ciel à venir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu nous parle du ciel, Jésus nous parle du ciel, mais le diable lui va nous discréditer le ciel, et même il va minimiser l'enfer. Raconte cette blague, vous savez, c'est un personnage qui meurt, il arrive dans l'au-delà, il arrive devant deux comptoirs d'inscription, et puis d'un côté c'est des gentils anges qui l'invitent à venir partager le ciel avec eux, de l'autre côté il y a des petits démons qui disent « Allez, viens faire la fête avec nous ». Et puis il voit du côté des démons, il voit là-bas un lieu de fête. Il y a des filles, il y a du vin, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a de la fumée, on joue au poker. Et évidemment, il va là-bas. Et alors, pendant qu'il s'amuse, un petit démon vient le voir et dit « Hé, si tu veux rester là, il faut aller t'inscrire là-bas devant. » Ah, il court dehors, il va s'inscrire. Et il veut revenir dans la salle de jeu. Au moment où il arrive, la porte se ferme, le démon est devant lui, ouvre l'autre porte et il voit l'enfer. Alors le gars il dit, mais j'ai pas signé pour aller ici, je voulais aller là-bas. Et le démon de lui dire, là c'est le service d'immigration, ici c'est la réalité. Toutes nos séries télévisions qui banalisent la magie, les expériences extrasensorielles, qui nous font croire qu'il n'y a pas de danger à aller jouer avec ces choses-là. À votre avis, ça sert à quoi? Ça sert à minimiser la réalité des démons. Ça sert à nous faire croire qu'ils ne sont pas si vilains que ça. Et puis on voit des gens se déguiser en petits démons, cornus, avec une fourche, le long de la route du Tour de France, et ils courent après les coureurs. Vous n'avez jamais vu ça? Je trouve ça, c'est incroyable. Et puis vous avez des films qui nous parlent de la magie comme si c'était quelque chose d'inoffensif. Harry Potter et compagnie. L'école des magiciens. Les petits livres pour enfants. Il y en a en pagaille, en veux-tu, en voilà. Tout ça pour minimiser l'idée que l'enfer puisse être un lieu horrible. Et puis plus près de nous, tous les jours, ouvrez les yeux, roulez en voiture, vous avez des publicités où constamment on voit des démons cornus avec des prix d'enfer. Et les jeunes ont une soirée d'enfer. Et récemment, j'en ai vu une pub, là, celle-là, je la trouvais absolument grotesque. Des démoniaques burgers. Des démoniaques burgers. Vous croquez dedans, vous avez la chair du bœuf du coin. Tout ça, ça sert à quoi? À minimiser la réalité de l'enfer. À banaliser le monde spirituel négatif. À nous faire croire qu'il n'y a pas de danger. J'aimerais vous dire, venez un peu avec nous dans les confessions. Venez écouter un peu ce qui se passe quand les gens ouvrent leur cœur et commencent à dire combien ils sont oppressés. Combien ils sont malmenés. Certains entendent des voix terribles qui les poussent à faire des choses horribles. Horribles. Bien-aimés, le ciel et l'enfer existent et je vous invite à aller au ciel parce que le ciel est un endroit merveilleux, un endroit fantastique. Non pas un endroit de oisiveté où on ne fait rien, mais un endroit magnifique. Apocalypse 21, verset 11 à 17. Si vous lisez le verset suivant, dans ce chapitre 21, vous allez voir qu'il nous attend là une belle ville faite d'or pur, transparent. C'est incroyable, n'est-ce pas? Avec des fondements en pierre précieuse, de la jaspe, de la sardoine, de l'émeraude. Incroyable! Avec 12 portes, et chaque porte est une perle en soi. Vous savez qu'il va être belle, hein? Je vous assure, là en haut, il y a des choses incroyables. L'apôtre Jean, on sent qu'il manque de mots pour décrire la beauté du lieu, la magnificence du lieu. Et puis c'est un lieu de repos, parce que Dieu est là, et là où est Dieu, il y a tout ce qui émane de lui, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, le repos de Dieu. Ni deuil, ni cri, ni larmes, ni souffrance. Il n'y aura plus de souffrance, plus de stress. Parce qu'on aura le temps, papa Jean, on aura le temps de chanter. On aura le temps. On aura tout notre temps. Et puis, il est marqué que l'ancien monde aura disparu avec tout ce qu'il comporte. La méchanceté des hommes, les guerres, les querelles, les jalousies. La maladie n'existera plus. Les lunettes, plus besoin. Les dentiers, non plus. Maman, des genoux tout neufs. Tout neuf, je te dis. L'ancien monde aura disparu. Et puis le ciel est un lieu de service. Voyez-vous, on a parlé d'une ville sainte qui descend. Ah, vous savez, le ciel est comparé à une ville, ou à un jardin, ou à une demeure privée. J'ai jamais vu une ville, ou un jardin, ou une demeure privée, n'ayant aucun besoin de maintenance. Il y a du boulot, hein? Allô? Nous aurons du boulot là-haut. Nous ne serons pas oisifs. Nous allons faire des choses extraordinaires. Oui, nous allons chanter pendant quelques siècles la gloire de l'agneau de Dieu. Ouais, nous allons chanter. Mais il y aura aussi du boulot. Nous allons régner avec lui. Hello? Nous allons régner avec lui. Assis sur des trônes, en faisant des plans, des stratégies. En vérifiant les progrès des œuvres que nous aurons entreprises. Et nous pourrons voir l'œuvre de nos mains se multiplier, croître, devenir belle. Amen. Et puis il y aura des métiers qui vont migrer vers le ciel. les menuisiers, les charpentiers, les maçons, les orfèvres, les horticulteurs, François. Ah ouais, pas de chômage pour toi là-bas, hein. Par contre, les dentistes, je sais pas trop, hein. C'est... Et puis alors, les pompes funèbres, c'est raté, hein. Ah ouais, un lieu de service, un lieu où nous serons vraiment pleinement épanouis, nous aurons la joie de travaux achevés, de projets élaborés sans fatigue, sans pénibilité, sans l'échec de la, sans échec, sans déception de l'échec même. Parce que là-haut, est-il marqué dans l'Apocalypse 22, verset 3, il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. Pour le chrétien qui meurt, la tombe n'est pas un cul-de-sac, la tombe est un passage dans l'autre monde et nous irons au ciel auprès du Seigneur. Amen. J'aimerais te dire, mon ami, ce soir, mon frère, ma sœur, cher visiteur, vise le ciel. S'il te plaît, vise le ciel. Parce que la terre ici-bas va disparaître. Tout le temps que tu auras investi ici-bas pour des choses d'ici-bas vont rester ici-bas. Et tu repartiras aussi nu que t'es venu. Sans cheveux et sans dents, tu iras dans la tombe. Vise le ciel est un choix. Jésus a dit la chose suivante. Jeune homme riche, vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis il lui dit, viens et suis-moi. Si tu veux aller au ciel, il te faut suivre Jésus. Au moment donné, il y aura un choix initial à faire. Je décide un jour de suivre Jésus. Mais cette décision, il faut la reprendre tous les jours à nouveau. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause de mon nom, la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je suis en train de lire le livre de Charles Studd. Un jeune homme anglais brillant du 19e siècle, le champion du cricket. Il avait gagné des médailles, des coupes, etc. Issu d'une famille noble. Et quand Dieu l'a appelé, il est parti en Chine. Mes amis, sans vaccin, sans médicaments, juste l'appel de Dieu pour la Chine. Il fallait faire des semaines de bateau pour arriver là-bas. Mais son engagement pour ce pays, pour ce peuple, a amené des centaines et des milliers de personnes à connaître Jésus. Ses diplômes et ses coupes de cricket ne l'accompagneront jamais au ciel. Mais ce qu'il a fait pour le Seigneur, ça va le suivre éternellement. Vise le ciel et tu gagneras la terre. Vise le ciel, mon ami, ce soir. Paul dira, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous à ces choses d'en haut. Paul était convaincu du paradis. Par une fois, à un moment donné, il est sorti de son corps et il est monté au troisième ciel. Et il a vu le ciel. Il a entendu des mots ineffables, impossibles à prononcer. Il avait vu la réalité du ciel. Et c'est la raison pour laquelle il a tout enduré. Pour la cause de l'évangile. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut nous sauver. Et nous amener. Avoir une vie qui garde toujours à nouveau le cap du ciel. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où en est ta vie ce soir. Mais il se peut que tu sois venu ici pour que Jésus te sauve et il t'a sauvé de tes problèmes et de tes misères. Et il t'a fait du bien. Et parce que tu as obéi, il t'a béni. Et t'as continué à obéir, il t'a encore béni davantage. Mais tu cours le risque, comme moi d'ailleurs, qu'un jour ou l'autre, tu aies davantage le cœur pour tes bénédictions, que pour le Dieu de la bénédiction. Un jour, les propriétés, la terre, l'argent, tout ce que tu as, restera ici. J'ai pas dit qu'il faut être fou et faire n'importe quoi maintenant, mais cependant, je me suis demandé, mais où est ton cœur ce soir? Est-ce qu'il est pour Jésus? Est-ce qu'il est pour Dieu? Est-ce qu'il est pour le salut des perdus? J'aime terminer ce soir en disant la chose suivante. Le ciel est un destin qu'on choisit. On ne sera pas forcé d'aller au ciel. Personne ne vous amènera de force au ciel. C'est vous et moi qui aurons choisi d'aller au ciel. Jésus a dit la chose suivante. Entrez par la porte étroite, Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il est marqué là quatre choses. La première, il n'y a que deux chemins. Un large et un étroit. L'un mène au ciel, l'autre à la perdition, en enfer. Deux, il est plus facile de se perdre que d'être sauvé. Et j'aimerais ce soir dire la chose suivante aux chrétiens, il est plus facile de se reperdre que d'être sauvé. Le chemin large et étroit ne sont pas deux chemins qui se séparent. C'est deux chemins qui sont très proches l'un de l'autre. Et chaque matin, je fais le choix. Chaque soir, monsieur, frère, quand vous allez sur Internet, votre clic de souris est un choix d'un chemin. Troisièmement, la vérité profonde de ce texte est terrible. Il dit là que l'immense majorité est en route vers la perdition. L'immense majorité est en route vers la perdition. Large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ce texte me glace. Il me glace le dos face à ceux qui vivent là autour de nous. Bien-aimés, nous devrions nous mettre à genoux et prier ardemment que Dieu sauve. Que Dieu sauve. Que Dieu cherche, pendant qu'il fait encore jour, que Dieu cherche des hommes et des femmes. Qu'il ne les laisse pas aller en enfer. Et si j'avais deux vies, je les mettrais de nouveau au service de l'Évangile. Et si j'avais 100 vies, je les mettrais au service de l'Évangile. Et mes meilleures années, je les ai mises au service de l'Évangile. Et je n'ai aucune honte. Et les 15, 20 ans qui me restent où j'ai de la force et de l'énergie, je vais les mettre au service de l'Évangile. L'Église est une entreprise de sauvetage. Et que j'ai encore des bons yeux dans 20 ans ou pas, je continuerai à servir l'Évangile. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont à la perdition éternelle. Papa Jean répète, il redit tellement souvent, une âme devant Dieu, ça vaut le monde entier, ça vaut tous les efforts, ça vaut tout l'argent, ça vaut tout l'investissement de nos vies pour qu'une âme soit sauvée. J'ai vu hier le beau-père de Marc qui avait prié pour son gendre et pour sa fille d'ailleurs aussi qui à un moment donné avait dérivé et puis avait fait n'importe quoi. Il avait prié avec sa femme nuit et jour. Ils ont prié des années. Ils ont prié des années. Hier, je l'ai vu. Il m'a dit, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Il a atteint le but. Il est au ciel. Quatrième vérité de ce texte, il y a un choix à faire. Entrez par la porte droite. Faites le choix. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, Jacob, Paul, Moïse, Pierre, Jacques, Jean et les centaines de milliers et de millions de chrétiens dans les siècles passés ont fait ce choix, n'ont jamais regretté. Certains sont morts tranquillement dans leur lit, d'autres sont morts atrocement. Parce qu'ils avaient le ciel devant leurs yeux. Vise le ciel et tu gagneras la terre. Et quand tu sais ce que vaut une âme devant Dieu, on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas rester indifférent et se contenter d'un petit christianisme gentil où on est content que Dieu nous fasse du bien et nous bénisse. Ah, c'est gentil. Seigneur, merci beaucoup. Oui, s'il te bénit, c'est pour que tu réinvestisses dans l'Évangile. Papa Jean aurait pu être un bon commerçant, avoir sa femme guérie, jouir de la vie tranquillement. Quand Dieu l'a appelé, il a fait des choix. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. On fait des choix. Et des fois des choix douloureux. Une cause des souffrances. Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimé, ma femme a accouché dans la douleur. Et puis après, il y a eu 4 mois, 3 mois douloureux à cause des enfants. Mais aujourd'hui, toutes les douleurs sont oubliées. Quand on voit les photos des petites, d'autres fois on se dit, mais comment on a fait pour traverser cela? Mais je vais vous dire, elles sont en bonne santé, on a tout oublié. La joie d'avoir une bonne santé nous a fait oublier toute la douleur et la difficulté. Et j'aimerais vous dire, le temps présent, les souffrances du temps présent ne sont rien en comparé de la gloire qui nous sera révélée et qui nous sera attribuée. Où en êtes-vous ce soir? Question, êtes-vous encore sur le chemin? Ou bien êtes-vous à côté du chemin? Et si vous y êtes, vers quoi tend votre énergie? Au fait, vous avez déjà fait le choix d'aller sur le chemin étroit, de passer par la porte étroite? Si vous n'avez pas encore fait, ce soir c'est le moment de le faire. Et à vous qui êtes croyants, j'aimerais dire, nous n'évangéliserons jamais, nous n'investirons jamais dans l'œuvre de Dieu que dans la mesure où nous sommes convaincus du ciel à venir ou de l'enfer. Et ou de l'enfer. Nous ne combattrons jamais pour la justice si nous ne sommes pas convaincus de Matthieu 5 où il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu ». Nous ne marcherons jamais droit et ne produiront du fruit que nous si nous sommes convaincus du jugement à venir. Nous n'avons qu'une vie que nous ne pouvons dépenser qu'une seule fois, alors qu'elle le soit pour la juste cause, celle de Christ, celle pour la rétribution éternelle. Et j'aimerais vous dire, je nous invite ce soir à nous consacrer à Dieu, à dire Seigneur, ma vie pour toi, toute ma vie pour toi. Des fois, je suis intrigué quand on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que je me demande des fois si nous avons la bonne motivation dans la prière. Lorsque Jésus a dit à ses disciples de retourner à Jérusalem pour attendre le baptême de l'Esprit-Saint, il leur a dit « Et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ». Si vous voulez recevoir la puissance de Dieu sans devenir le témoin, pourquoi voulez-vous que Dieu vous donne la puissance? Dieu vous donne la puissance dans la mesure où vous dites maintenant, je veux être un témoin pour Jésus. Un témoin pour Jésus. Que ma vie soit un parfum de bonne odeur pour lui. Que là où je passe, on dit de moi, mais c'est un chrétien. Ses réactions, sa façon de parler et d'agir, elle transpire le Christ. Allô? Les chrétiens, disait Louis, qui ont eu le plus d'influence en ce monde furent ceux qui pensaient le plus au paradis. Mais depuis que les chrétiens ont cessé de penser au royaume à venir, leur influence dans le monde a commencé à décliner. Vise le ciel et tu gagneras la terre. Vise la terre et tu perdras et le ciel et la terre de toute façon. Amen. Prions ensemble. J'invite les chanteurs à remonter, ainsi que les pianistes et les musiciens. Prions ensemble. Je voudrais faire un appel ce soir en deux temps. Je vais aller directement à la question. Pendant que tout le monde prie et ferme les yeux, je vous demande qui ce soir sait qu'il n'a jamais choisi Jésus, qu'il n'a jamais fait le choix de le suivre. J'aimerais te dire, mon ami, tu es sur le chemin large qui mène à la perdition. Ce soir, je voudrais te donner l'occasion de faire le choix de changer de chemin et de prendre le chemin étroit. Et si tu veux le faire, lève ta main là où tu es, simplement. Je voudrais prier pour toi. Seigneur, vous voyez, monsieur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui savent ce soir, il faut que je prenne le chemin. Parmi les croyants, s'il y en a qui savent, dans leur vie, il y a une nouvelle zone d'ombre. Tantôt à droite, tantôt à gauche, cloche d'un côté, cloche de l'autre côté. Tantôt ils sont chrétiens, oui ils aiment Jésus, mais dans la semaine, il y a des moments où on se laisse aller. C'est devenu un style de vie, une habitude. Et l'habitude, la force de l'habitude, est devenue un style de vie. Et le style de vie peut devenir un destin. Je t'en supplie ce soir, frère, vise le ciel. Vise le ciel. Et si tu veux, dis-moi, frère, j'ai du mal. Je voudrais tellement, mais j'ai du mal. Prie pour moi. Lève ta main courtement là où tu es. Je priais pour toi. Je priais pour toi. N'aie aucune honte. C'est entre Dieu et toi. Oui, madame, Seigneur vous voit. J'aimerais lire ce texte de Acte 2, 40, 38. Il parlait du baptême du Saint-Esprit. Mais écoutez voir ce qui précède le texte. Il est dit, repentez-vous. C'est Pierre qui prêche. Et qui dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des étapes. L'Esprit Saint n'est pas un truc qu'on demande comme ça. L'Esprit Saint est, comme le dit le nom, saint. Il est saint. Pendant que Bernard continue de jouer ce cantique, il est le sauveur de mon âme. Je nous invite à faire un examen de conscience. Et si dans votre vie, il y a des zones d'ombre, des zones grises peut-être aussi, vous savez que vous savez que vous savez que ce domaine-là maintenant il faut arrêter, que Dieu vous demande d'arrêter ce péché. Je vous invite à le dire à Dieu dans votre cœur, Seigneur, je veux m'arrêter. Demandez-lui pardon. Dites-lui, Seigneur, je ne veux pas seulement le regretter, je me repens. Autrement dit, je me détourne de mon péché. Je me détourne du mal que je fais. Et je me tourne vers toi. Et je te demande de venir me pardonner, de me laver, de me purifier. Et après quoi, bien nous prierons pour ceux et celles qui veulent être baptisés du Saint-Esprit ou qui cherchent un renouvellement dans le Saint-Esprit, qui cherchent à être renouvelés comme l'ont été les disciples dans Acte 4. Ils avaient été malmenés par les pharisiens, mais ils ont prié ensemble et Dieu les a renouvelés, les a baptisés encore une fois du Saint-Esprit. Mais ils avaient des cœurs qui étaient droits devant Dieu. J'invite la petite chorale à lui murmurer pour nous pendant que nous prions dans le silence, pendant que Aline et ses amis lui murmurent tranquillement pour nous. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, arrache-moi à tel péché. Seigneur, ne me laisse pas aller. S'il le faut, corrige-moi, Seigneur.
Message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.